Gérard Legrand, vous vous êtes attaché particulièrement aux poésies de Lautréamont, que vous avez étudiées de près, ce qui ne veut pas dire que vous êtes désintéressé des chants de Maldoror, mais on se pose toujours une question qui est l'écart qu'il y a apparemment entre les poésies et les chants de Maldoror. Alors est-ce que, à votre avis, ces poésies qui... D'abord, sont-elles vraiment des poésies? Et d'autre part, est-ce qu'elles sont en contradiction, comme on l'a souvent dit, avec les chants de Maldoror?
Il faut toujours se rappeler que il s'agit de deux plaquettes intitulées poésie. Bon. De là à parler des poésies, en fait, il faut parler de poésie comme une sorte d'objet, un livre qui se trouve s'intituler poésie au pluriel, en deux fascicules, puisqu'on sait que Ducasse, semble-t-il, avait l'intention de continuer la publication, peut-être sous le même titre, quand la mort est venue l'interrompre. En ce qui concerne le contraste avec les chants de Maldoror, il y a longtemps que Maurice Blanchot, je crois le premier, a fait remarquer que cette contradiction apparente était minée en quelque sorte de l'intérieur par des moments où, dans poésie, Lautréamont, sans aucune espèce d'autoparodie, puisqu'il accuse au contraire le romantisme d'être une autoparodie constante, revient au même ton et emploie les mêmes expressions que dans les chants de Maldoror. Le fameux passage « Allez la musique » où il est question du canard du doute aux lèvres de Vermouth ne peut pas ne pas rappeler les expressions qui figurent dans les chants de Maldoror du type l'homme aux lèvres de jaspe, l'homme aux lèvres de bronze, etc. Ceci est un simple exemple. D'autre part, il y a toujours, selon la remarque qu'avait faite Blanchot, la même tension et le même désir de dépassement, disons de la littérature pour simplifier, dans les deux cas. Dans un cas, il s'agit d'une outrance hyper romantique. Dans l'autre cas, celui de poésie, il s'agit d'une outrance dans l'hyper retour à la raison et au bon sens, qui se trouve bousculée de différentes manières. Tantôt par le principe des maximes corrigées, tantôt par des inversions de phrases. Les termes d'une proposition sont retournés. Et le lecteur est stupéfié, croit qu'on lui parle d'une chose peu compréhensible. Il suffit souvent de déplacer deux mots pour avoir le vrai sens de la phrase. Ceci est évidemment calculé. À travers le gouvernail ne veut rien dire, mais à travers le développement des propositions sentimentales veut dire quelque chose. Or, Lautréamont s'arrange pour faire figurer une remarque quant au développement des thèses sentimentales en commençant par « à travers le gouvernail ».
Alors, est-ce à dire qu'il y aurait une première contradiction apparente entre les chants de Maldoror et les poésies, et une seconde contradiction qui peut-être annulerait la première à l'intérieur même des poésies?
Globalement, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que dans poésie, il y a, au-delà même de la notion de contradiction, une sorte de foisonnement pluriel, puisque tantôt le texte, d'après l'état actuel de nos sources, est original. Tantôt, il est, on le sait, nous avions cherché il y a quelques années à repérer le plus grand nombre possible des fameuses maximes corrigées. Il y en a encore quelques-unes qui résistent, dont on devine qu'elles doivent être corrigées, on ne sait pas à partir de quoi. Pascal et Vauvenargues n'ont pas encore tout à fait livré tous leurs secrets, il faudrait une étude véritablement érudite à ce sujet. Et d'autre part, parfois apparaissent des gens comme La Rochefoucauld, ou Shakespeare, ou même une fois Dante, dont on ne s'attend pas à voir figurer dans le matériel de base de poésie.
Ce qui montre donc que Lautréamont, quoique bien jeune, avait beaucoup lu. C'est un homme qui...
C'est un homme d'une énorme lecture. C'est un étudiant, au départ, il ne faut pas l'oublier, qui a certainement déjà, dans Maldoror, il y a, dans les chants de Maldoror, visiblement, des passages qui ne sont pas du tout démarqués. Il ne s'agit pas du plagiat comme il sera pratiqué dans Poésie. C'est une autre attitude, mais qui sont des souvenirs évidents, aussi bien de la Divine Comédie que d'Homère, que de la Genèse, la Bible en général. Peut-être même a-t-il eu connaissance d'œuvres de romantiques mystiques du type William Blake, parce qu'il y a trop de coïncidences pour qu'on puisse les attribuer toutes au hasard. Par quel relais tout ceci lui est-il parvenu? Nous n'en savons rien. Il faudrait fouiller peut-être les manuels de vulgarisation à l'usage des étudiants qui ont existé à cette époque-là, les cours de littérature étrangère, par exemple, où il survolait certainement de grands espaces littéraires en prélevant ce qui pouvait, j'allais dire, nourrir sa réflexion et son génie propre. D'autre part, pour revenir sur Poésie, il y a un cas au moins où nous voyons, conformément à ce qu'il annonce, à ce qu'il présente comme son programme, Ducasse se corriger lui-même. C'est la fameuse description du déluge dans Les Chants de Maldoror qui est reprise dans Poésie sous l'angle au contraire de la conciliation de l'homme avec lui-même, n'est-ce pas, et de l'absence de punition divine qui s'exercerait sur une humanité tout à fait tranquille et qui donc n'aurait pas de raison d'être. Si on tient compte de l'humour, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un exercice délibéré. Il y a également un exercice du même ordre sur Victor Hugo. Ce qui est d'autant plus intéressant quand on y réfléchit maintenant, c'est que nous savons depuis peu que les Chants de Maldoror ont été connus de Hugo, puisque l'autre amant les lui a envoyés à Guernesey avec une lettre extrêmement admirative. Et lorsqu'ensuite il fait figurer dans Poésie Hugo parmi les grandes têtes molles et l'englobe dans la condamnation du romantisme, il est assez curieux de noter qu'il lui applique une épithète qui ne lui convient pas. Appeler Chateaubriand le Mohican mélancolique, c'est à peine une injure. Les romantiques eux-mêmes l'appelaient en plaisantant sa chaîne. Tandis que traiter, il n'y a pas d'autre mot, Hugo de funèbre échalas à verre, on ne voit pas. Il n'y a rien dans l'attitude ni physique, ni mentale, ni morale de Hugo qui corresponde à un échalas. Et le mot verre, on ne sait pas non plus pourquoi il arrive là. Il ne reste que le mot de funèbre, qui est bon, l'allusion à la littérature hugolienne de la période que Ducasse touche de plus près, c'est-à-dire les contemplations.
Et un peu plus d'un siècle, plus tard, un peu plus d'un siècle après sa mort, est-ce que Lautréamont vous paraît encore un écrivain vivant?
Ça m'est très difficile de répondre. Et voici pourquoi. J'ai été moi-même sujet à la découverte de Lautréamont, il y a maintenant 40 ans, qui a produit sur moi un effet absolument décisif. J'ai eu la chance de le découvrir en même temps que je découvrais le surréalisme et donc n'avoir aucune espèce de problème à lier l'un à l'autre. Je n'ai pas encore tout à fait la sensation d'avoir épuisé la véritable nourriture intellectuelle que ça comporte, en ce sens que Lautréamont poète, Lautréamont écrivain, soit, se situe pour moi à la même hauteur que un très petit nombre, non seulement de poètes, mais de philosophes. Et ceci, à travers une recherche qui peut à certains égards aussi vieille que la littérature universelle, mais qui dans notre temps a pris une forme plus exaspérée et en même temps plus secrète que jamais, qui est la recherche du livre définitif. La théorie du plagiat, par exemple, implique qu'on connaisse toute la littérature et qu'on en finisse avec elle. Mais inversement, si on en finit avec elle, c'est pour la sauver. À notre époque où la notion de grand écrivain n'a plus beaucoup de sens vu le nombre des écrivains et où celle d'écrivain vivant est sujette à toutes sortes de variations, je pensais à la fortune posthume, mais qui elle-même est en train curieusement de s'arrêter, de se calmer, de se répandre dans la banalité de gens qu'on a pu comparer ou vouloir comparer à Ducasse, Lautréamont, Trait d'Union, comme Antonin Artaud, qui maintenant s'est presque banalisée, c'est une question, j'allais dire, de choix. On est en état de continuer à trouver le phénomène absolument vivant, fascinant et nourrissant, ou bien la notion d'écrivain vivant implique simplement que l'autre amont figure en bonne place dans les manuels de littérature, ce qui n'est pas tout à fait exact, ce qui est plutôt rassurant.
Quand Lautréamont meurt, on est en pleine commune de Paris, et peu de temps après, 2 ou 3 mois après, Rimbaud entre dans Paris. Est-ce qu'il vous semble qu'il y ait un hasard objectif ou bien un autre type de lien entre ces trois événements ?
Entre Lautréamont et Rimbaud, il y a un lien. Ce lien n'est pas à chercher dans l'écriture, ni même dans la forme du génie. Il est à chercher dans la façon dont l'un et l'autre, façon quelquefois commune, je dis bien seulement quelquefois, ont voulu à la fois exploiter les trésors de la littérature antérieure et en même temps faire ce que Rimbaud appelait très énigmatiquement de l'absolument moderne, formule que je continue à trouver très obscure. Et là, il y a un lien. Il y a un lien dans le tour d'esprit. Par rapport à la commune, on est dans l'incertitude. Vous savez que la participation même de Rimbaud à la commune est une notion légèrement controuvée historiquement. Le cas de Ducasse ne se pose pas. La question ne se pose pas. Il est mort avant. Il est mort alors qu'il était apparemment encore en relation d'amitié, ou en tout cas, il pensait avoir encore des relations d'amitié avec un certain nombre de gens, dont quelques-uns, effectivement, se sont trouvés proches du mouvement communard, certains des dédicataires de poésie, du premier fascicule de poésie. Il y a quelque chose de commun dans la mesure où la commune a été un événement poétique. Alors, en retournant la proposition sous cet angle-là, oui, parce qu'il arrive qu'une convulsion sociale ne soit pas un événement poétique. Il arrive aussi qu'elle soit un événement pseudo-poétique. Dans le cas de la commune, il y a une part de poésie dans la vie, c'est-à-dire de tentative de création, non pas ex nihilo, mais de création exemplaire, disons, dans l'ordre social. Et à cet égard, oui, on peut parler, plutôt que de parler de hasard objectif, on peut parler de, disons, de beauté objective dans le calendrier.